Messieurs, dames, une semaine à l'écran. On va commencer doucement l'enregistrement de l'épisode. Veuillez prendre place et nous accorder votre attention la plus complète. Merci d'avance.
Et c'est parti. Genre quand on
fait un
bruit,
et vous applaudissez.
Ouais, c'est... On a un gros flash pour rendre l'expérience le plus complète.
Fais ce que tu veux.
Bismillah.
Les gens du premier rang, ils sont relous.
Salam alaykoum wa alaykoum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage, sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonjour, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de Let's Say saison 2024. On enregistre actuellement en live avec un public. D'ailleurs, le public, est-ce que vous pouvez faire du bruit pour les auditeurs? On enregistre aujourd'hui au Stade des Antilopes, un lieu immersif réalisé par Air Afrique. Air Afrique, c'est un collectif et une plateforme qui célèbre l'héritage culturel de la compagnie aérienne du même nom, donc la compagnie aérienne Air Afrique qui n'existe plus, à travers l'art, l'échange et les savoirs afro-diasporiques. Aujourd'hui, il lance le Air Afrique Football Club à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations et du coup, hoste différents matchs et nous invite aujourd'hui à hoster le match Angola-Algérie et on les remercie pour leur accueil. Le podcast d'aujourd'hui va parler de l'impact du football sur la diaspora maghrébine et de la diaspora africaine en général. Donc on va plonger dans l'univers du ballon rond et son rôle, notamment dans le processus décolonial, dans la construction de l'identité des enfants d'immigrés et l'importance que la CAN elle a en France aujourd'hui. Et une dernière question qui est un peu sensible, mais la question de l'africanité des maghrébins. Et pour éclairer ces sujets, on a le plaisir d'accueillir Samy Eliès de 18 Hills, une association du 18e arrondissement qui utilise le sport comme moyen de rassembler la jeunesse. Et donc, ils ont un parcours assez fou. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert votre parcours lors des Plumes Banlieue Awards, où bah, du coup, c'était toi, Eliès, et Amine qui étaient sur scène, qui avaient raconté l'histoire. Et j'étais là en mode, en fait, c'est foot de rue dans la vraie vie. Et donc voilà, je vous laisse peut-être vous présenter et nous dire qui vous êtes, chacun personnellement, et ce que vous faites.
Ok, bah, super présentation. Merci pour l'invitation, très honoré. En plus, on est des gens qui écoutent un peu la taille, notamment le dernier, je crois, c'était sur le ramadan, non ?
Ouais, alors,
c'est sur le dernier ramadan, ouais.
C'est ça ?
Ouais.
C'était Sidox, en plus, il avait fait une dédicace pour nous. Ouais. Il nous avait vendus comme des héros. Donc, en plus, Lina, tu nous as demandé de venir. Tu nous as dit qu'il allait avoir du bon à Tay.
Mais là, ça arrive. T'inquiète, mets pas la pression, ça arrive.
Je suis pas venu pour rien.
On a la gorge sèche. Hein.
Et ouais, donc, bonsoir à tous. Moi, c'est Lies, j'ai 25 ans, je suis l'un des fondateurs de la communauté Street Foot 18 Hills. C'est une communauté qui a pour but de favoriser la pratique du football au sein de notre quartier dans le 18e, à Paris. Et voilà, on fait d'autres actions comme du soutien scolaire pour les jeunes, de la création d'activités où on aide des gens à créer des expositions comme Mystic Japo. Et dernièrement, on a réalisé notre premier voyage humanitaire, notre première mission humanitaire en Afrique, en Tanzanie, et voilà.
Est-ce que tu peux parler de comment l'association elle s'est créée? Parce qu'en fait, c'est cette histoire-là qui est assez intéressante.
Ouais, enfin, avant d'être une association, on était une communauté. Et c'était après
l'histoire du terrain à Montmartre.
C'est ça. Mais avant ça, c'était. Ouais. En fait, on est des jeunes dans le 18e. On a grandi dans un quartier qui n'avait pas de city stade, contrairement à d'autres. Enfin, en banlieue, il y a beaucoup de city. Mais chez nous, c'est Montmartre, c'est un quartier assez touristique, donc il n'y a pas trop d'activités pour les jeunes. Malgré qu'il y a des jeunes, il y a aussi des Parisiens qui y vivent, pas que des touristes. Et du coup, on a appris en 2019 qu'il allait y avoir un city stade qui allait être créé dans notre quartier. Et nous, à cette époque-là, on était super contents. Et donc, on s'est dit qu'on allait l'utiliser à bon escient, ce city stade. Et à cette époque-là, il y a mon frère Amine qui joue aux États-Unis. À Los Angeles, et moi qui est ici présent.
Tu vas me faire une pause dans l'histoire, s'il te plaît. Ouais. Donc salut, c'est Sidox pour les auditeurs. Ah ouais. Tu vas me faire une pause dans l'épisode. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout là. Il y a une dinguerie là. Salut, il arrive après. C'est quoi cette histoire de Los Angeles?
Bien, en fait, c'est ça, parce que 18 Hills, c'est ça finalement. Le nom 18 Hills, 18 pour 18, et Hills, ça signifie en anglais colline. Colline de Montmartre, parce qu'on est de Montmartre. Ouais. Et aussi, c'est un clin d'œil à Los Angeles, parce que Beverly Hills, si vous connaissez, c'est un quartier à Los Angeles. Et on voulait un nom à consonance américaine, parce que finalement, notre projet, notre concept, il vient des États-Unis. D'accord. Et là, j'y viens. Amine, il joue au foot là-bas, en foot universitaire, il joue en club.
D'accord.
Et moi, Yanis, un autre mec du 18, on était partis le rejoindre pour les vacances. Et là-bas, il s'avère qu'il y a un autre quartier, qui s'appelle Venice Beach. Je pense que beaucoup connaissent. Si vous jouez à GTA, c'est le quartier là. Avec, vous voyez? Avec la plage, les palmiers et tout ça. Et il y a des meufs qui font du roller, des mecs, des bodybuilding, là ils font de la muscu. Il y a aussi du basket de rue, il y a du foot de rue, enfin du street foot. Et en fait, on allait là-bas les dimanches et on avait kiffé le concept de leur street foot. Parce que tu vois, c'était du 4v4 sans gardien, d'accord, petite cage. T'avais grave du monde autour, il y avait de la musique à fond, de la graille, un DJ, tout ça. Et on avait kiffé ce concept.
Vous avez tasé ou pas?
Ouais,
ça va quand même.
Et tu vois, et nous on avait kiffé ce concept-là. Et donc on allait tous les dimanches, on était resté longtemps à cette période. Et on s'est dit, nous aussi, pourquoi on ne créerait pas ça chez nous? Parce que, en plus, ça tombe bien, il y a un city stade qui vient d'arriver chez nous. Tu vois.
Okay.
Donc à ce moment-là, le city stade est créé et vous faites ça là-bas.
Voilà, on se dit parce que on est des joueurs de foot et on ne retrouvait pas ça en France à Paris. À cette époque-là, il n'y avait pas trop de street foot à Paris.
Donc je vois ce que tu veux dire par le mot de communauté, c'est-à-dire que tu as créé un événement et un rendez-vous dans ce city stade qui venait d'arriver en bas de chez toi.
Voilà, en quelque sorte, on a donné une âme à ce city stade, okay. Mais avant ça, il y avait le Covid, c'est-à-dire on n'a rien fait.
Ouais, on est tous passés par là.
Voilà, c'est ça, on voulait faire, mais il y a eu le Covid. Après le Covid, c'était le bon moment. On a décidé de lancer ça, on a demandé à nos potes, voilà, qui veut venir ce dimanche, ça joue, venez, on se retrouve, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Et tout le monde avait envie de se retrouver à cette période. Mm. Du coup, ça a super bien marché, il y avait grave du monde. Ce qu'on a vu à Los Angeles, on a réussi à le ramener chez nous à Paris. Et pour nous, déjà, c'était une grande victoire.
Bien sûr.
On avait déjà réussi. Genre, c'est du 3v3. Le stade, il est tout petit. Hein.
Ouais.
Et t'avais 50 personnes, un peu plus de monde. Enfin, il y a du monde aujourd'hui.
Mais t'inquiète,
il y a plein de gens qui rient.
Ouais.
Mais il y avait du monde. Et nous, déjà, on était super contents par rapport à ça.
Mais surtout que ça faisait un délire. Parce que le stade, c'est 3v3, mais c'est dans une sorte de cage. Et nous, on a tous été matrixés par la pub Nike à l'époque. Voilà. The Cage. On s'est dit, ah ouais, si on peut faire le même délire avec du monde autour. Franchement, ça va être carré. Et en plus, on a commencé ça l'été. Et comme c'était la période Covid, il y a plein de gens qui partaient pas.
Ouais.
Donc on s'est dit, tout le monde va venir. Et même si on peut faire des animations sur le côté, donc il y en a, ils vont ramener des glacières avec des boissons. Si on peut faire un barbecue, ça n'a pas été possible dans le quartier.
Ouais.
Mais on a essayé d'animer au maximum, ramener un peu de musique, etc.
Donc micro-introduction, présente-toi maintenant.
Ouais, du coup, moi, c'est Samy. Je suis un membre actif de 18 Hills. Donc j'étais là depuis le début et je suis un peu l'homme de l'ombre. Okay. Et du coup voilà, au début on voulait ramener ce délire dans ce quartier, du coup qui est touristique, et ça a bien marché. Du coup de semaine en semaine il y avait de plus en plus de monde.
C'était même pas prévu à la base.
Ouais, c'est ça.
On voulait juste faire un dimanche.
Ouais.
Après, on a dit c'est comment ce dimanche ça joue. Après nous on a dit mais
ça s'arrête pas.
Vous croyez qu'on est organisateur ou quoi?
Ils t'ont dit oui, et t'as dit bon, ok.
On a dit bon, il n'y a rien à faire ce dimanche, on va faire. On a fait, et tout le monde a kiffé. On s'est dit bon, vas-y, on va faire un peu ce délire-là à la Venice Beach. Eux, ils ont un compte Insta, On kiffe leurs photos, leurs vidéos, la manière dont ils filment et tout, ça fait kiffer, ça fait rêver. On s'est dit bon, on va essayer de faire la même chose. On crée ça. Il y avait Guillaume qui se lançait à l'époque, qui est si présent aussi. Il se lançait dans... D'ailleurs, il a son compte Instagram qui s'appelle Football Field. Il se lançait dans la photo. À chaque fois qu'il voit un terrain, un City Stade, il va le prendre en photo, il va essayer de le mettre en lumière.
D'accord.
Donc, on a mélangé un peu foot, photographie, vidéo. Et ça y est, c'était lancé pour tout le mois de l'été. Ça a super bien marché, mais il y a aussi des problèmes qui sont arrivés avec. Faut savoir que ce City Stade, il est situé à Montmartre, dans le square Burke, au niveau du quartier des Abbesses, enfin aux Abbesses. C'est un quartier assez calme, très calme. Et le square était justement devenu trop calme parce qu'il n'y avait pas de City Stade. Mm-hmm. C'est un square où tu as un toboggan, c'est beaucoup des parents avec leurs petits-enfants en bas âge qui utilisent ce square. Et avec le City Stade, ça a ramené beaucoup de jeunes et ça n'a pas plu aux voisins, enfin une partie des voisins qui trouvaient que justement il y avait trop de jeunes et des jeunes en survêt, etc. Bon, je ne vais pas trop parler.
Oui, trop d'arabes et de noirs, quoi.
Ouais. Bon, exactement. C'est pas toi qui l'as dit.
Alors là, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est exactement ce que je pense. Et du coup, ça appelait la police, ça disait voilà, il y a des jeunes, ils sont dangereux, ça prétendait qu'on vendait de la drogue, tout ce genre de choses. Enfin, pas du tout, non, on est juste pour jouer au foot. Et du coup, la police est venue plusieurs fois. Ils nous ont même sorti du square pour des raisons. Mais vraiment, même eux n'avaient pas les raisons. Il y avait certains des policiers qui ne comprenaient même pas pourquoi ils étaient là. Une fois, les policiers nous ont dit, vous êtes obligés de sortir parce que vous êtes trop. Ils nous ont dit, voilà, en ce moment, il y a le Covid. Vous n'avez pas le droit d'être plus de 35, un truc comme ça. Tu vois, c'est des raisons. Même eux ne savaient pas pourquoi on n'avait rien fait de mal. Et du coup, ils ont carrément lancé une pétition, les voisins, pour raser le terrain. Une pétition qui a atteint plus de 1000 signatures. Mmh. Et le maire du 18e, M. Lejoindre, il avait même acté la fermeture du City Stade. Ça allait être fini, comme ça a été le cas dans le 95 à Sannois.
Ouais.
Tu vois, ce City Stade, il a été fermé, il a été rasé au bulldozer. Et nous, on allait connaître la même issue. Mais nous, on s'est battu, on s'est dit non, c'est mort, ça va pas être comme ça. Nous, on est là depuis qu'on est tout petit, vous venez d'arriver au quartier. C'est pas comme ça en fait. Ouais. Vous voulez du calme, habitez pas à côté d'un parc.
Ouais.
Parce que ça reste un parc. Il y a nous, on joue au foot.
Tu veux du calme, habite pas à Paris.
Il y a une daronne, une fois, on jouait, elle nous a dit est-ce que vous pouvez baisser la musique, je suis en train de lire un livre. Je vais dire, on est en train de jouer au foot. Et même si c'est pas. Arrête de dire c'est notre musique, parce qu'aussi il y a des enfants à côté qui sont en train de crier comme des fous, ils jouent dans le toboggan et tout. Ça veut dire en vrai, va la BU.
Ouais, voilà. Ouais.
Va la BU. Tu vois ce que je veux dire. Et ouais, donc de notre côté, on a lancé notre pétition et on a réussi à mobiliser des acteurs de notre quartier, comme M. Vikash Dorasou, qui est un ancien footballeur et qui était travaillé dans un média, enfin chez l'équipe.
Ultra engagé en plus, dans plein de causes associatives et tout, grave. C'est un grand personnage.
Au niveau social, ouais. Il est bon. Et la pétition a super bien marché, on a fait 10 000 signatures et du coup, on a réussi à maintenir le City Stade.
D'accord.
C'était une grande victoire pour nous. On a réussi à. Donc, ça nous a donné de la force pour continuer. Mmh. On a décidé de rassembler les meilleurs joueurs du quartier et s'inscrire dans les meilleurs tournois de Paris.
D'accord.
Tout à l'heure, on parlait d'un Pulstar, des tournois Nike, Adidas aussi, ouais. La Tango League. Et le plus grand tournoi qui est le Red Bull. Red Bull, ils organisent un grand tournoi de street foot en collab avec Neymar. Du coup, on s'est inscrit. On a passé les qualifications régionales, on s'est qualifié à la finale nationale et on est devenu champion de France.
Voilà. Ouais.
Et ouais, donc voilà.
Attends, petite parenthèse, fais-moi la compo là du coup de l'équipe qui est devenue champion de France.
La compo, c'était 5 et 2 remplaçants. Donc dédicace à Amine, ouais. Le président des Chinils. Guillaume, il n'était pas là malheureusement, Sani non plus. Metz. Yanis, Karim, qui sont aussi deux frères. Moi, je suis frère avec Amine, donc c'est deux fratries. Qui j'oublie pas là, parce que qui va m'insulter si je l'oublie
Chris.
Bilal, et c'est tout, je crois, j'ai fait 7.
Ouais, voilà, t'as fait 7.
J'ai fait les 7.
Et toi et ton frère, plutôt offensif, défensif?
Moi, je suis plus défensif. Amène un peu plus offensif, mais à 5, c'est différent du foot à 11. S'il n'y a pas de poste, ça va dans tous les sens. Du coup, on finit champion de France. Et le champion de France, quand Neymar était en France en tout cas, gagnait le droit de faire un shooting avec Neymar, de faire une petite entrevue avec lui, etc., dans les locaux de Red Bull. Et donc on avait gagné ce privilège-là, en plus de gagner notre place pour la Coupe du Monde. qui se déroulait au Qatar cette année-là, en 2022. D'habitude, ça se faisait au Brésil, chez Neymar, à Santos. Là, c'était au Qatar. Et voilà, donc on avait gagné ça, tu vois. Et comme avec Amine, on avait lancé l'Etinis, l'Instagram, etc. On s'est dit, imagine, on ramène Neymar dans notre city stade. Ouais, l'histoire, elle serait incroyable. Parce qu'un an auparavant, ça devait être, le stade, il devait être rasé au bulldozer, tu vois. Ouais. Si on réussit ça, c'est une dinguerie.
Ouais.
Du coup, on a dit à Florence, qui était la chef événementielle de Red Bull, on a dit, il n'y a pas moyen, tout ça. On s'est dit, mais c'est impossible. C'est niveau sécurité, c'est impossible. Le mec, il y aura des mouvements de foule. Impossible, laisse tomber. On a forcé. Finalement, elle a dit, bon, je vais demander à Red Bull International, tout ça. Et ça s'est fait, tu vois, ça s'est fait. On devait le voir le matin, le jour même. On devait le voir le matin. Finalement, on ne l'a pas vu le matin, il n'était pas là. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas, il viendra l'après-midi. Sauf que l'après-midi, on allait dans notre square pour faire tourner une pub. Ouais. Matin, c'était photo, après-midi, c'était pub. Donc nous, on nous a dit, ouais, vous nous avez eu, il ne viendra pas. Et tout, tu vois. Ils nous ont dit, vous inquiétez pas. Et au final, la journée passe, il ne vient pas. Nous, on ne revient pas dans les locaux parce qu'on devait le voir dans les locaux de base.
Ouais.
Et tu as deux mecs de notre équipe qui disent, vas-y, salut les gars, vas-y, c'est bon, vas-y, à demain, c'est bon.
Ouais, ils
nous ont saoulés, on a fait 36 prises, c'était chiant, tu vois, il faisait froid en plus. Et la meuf, elle dit, non, stay here, genre, restez ici. Et là, on comprend qu'il va venir, tu vois.
Okay.
Et donc, il vient dans notre parc, il vient avec deux gros vannes, il y avait un tas de journalistes, il y avait toute sa sécu et tout. Et ouais, là, ce moment-là était incroyable.
Et du coup, après, vous partez au Qatar ?
Ouais, bah, on part au Qatar représenter la France à la Coupe du Monde. Lui, il était là aussi, Neymar. Et on sort en poule, mais c'était pas le plus important pour nous, tu vois.
Bien sûr,
c'était avant tout.
La grande histoire, elle était faite, bien sûr.
Et ouais, représenter la France, tu vois, représenter notre 18e, c'était notre plus grande victoire en vrai.
Ouais.
Et bah.
Enfin, voilà, non,
en fait, moi je trouve l'histoire elle est ouf, mais vraiment.
Elle est longue aussi.
Ouais, hein. On en avait parlé et je te disais, en vrai, ça me fait trop penser à foot de rue, genre.
Ouais.
Non, mais je suis fan de foot de rue et j'ai tout regardé adulte. Et en fait, genre, pour ceux qui se. Enfin, moi je me souvenais pas exactement de c'était quoi l'histoire de foot de rue, mais en vrai, c'est des petits qui se rejoignent et qui se disent, mais venez, on joue ensemble. Et après, ils découvrent qu'il y a plein d'autres petits qui jouent ensemble en France. Après, ils découvrent qu'il y a plein d'autres petits qui jouent ensemble dans le monde. Et après, ils décident de faire leur Coupe du Monde de foot de rue. Mais en vrai, enfin.
C'est exactement ça.
Bref, moi, je trouve ça trop stylé.
Pour revenir au rapport du coup avec le foot, quelle place ça occupe dans vos vies? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, peut-être à côté d'18 Hills? Si tu veux commencer.
Alors, la place que ça occupe dans notre vie, le foot. En vrai, pendant cette période, quand on a lancé 18 Hills, on était étudiants avec l'IS, ça veut dire qu'on s'entraînait tous les matins. On allait jouer au foot, on faisait rien d'autre. On se réveillait, on va s'entraîner, on fait un peu de muscu, on va jouer au foot. Après, on va étudier à la BU et rebolote chaque jour. Hein.
Ouais.
C'était ça et bon, maintenant je suis diplômé, je travaille dans la fonction publique.
Ouais.
Voilà, la planque.
Okay.
Et, après le foot.
Ça a toujours été une passion pour vous,
ouais,
etc.
Ouais, ouais.
Et
ouais,
comme, ouais. Comme Lina l'a évoqué, on va beaucoup parler... comme dans l'ADA quoi, de l'été, de culture, etc. Donc, quel est le rapport entre le foot et tes origines? Bon, il y a beaucoup de gens qui se raccrochent énormément à ça. Au match de leur équipe nationale, dis-nous déjà quelle origine t'es, et où tu viens, quelle place ça a occupé peut-être dans les moments en famille. Parle-nous de ton rapport au foot.
Il vient de beaucoup d'endroits.
Non, en vrai, je suis algérien congolais.
Okay.
Donc, mon père est algérien de la région de Blida.
Ok.
Et ma mère, elle est congolaise de Brazzaville.
Okay.
Et mon père, moi après, je suis issu d'une famille avec beaucoup de frères et on a toujours été fan de foot.
Okay.
Et surtout, mon père, il a toujours été ultra fan de foot, donc de l'Algérie, bien évidemment. Après aussi de l'OM, mais ça, c'est autre chose. Mais ouais, du coup, depuis qu'on est petit, il nous a toujours inculqué cette culture de foot. Donc tous les week-ends, nous emmener, nous entraîner, etc. Donc mes frères, ils jouent à un bon niveau aussi. J'allais souvent les voir jouer. Et ouais, des petits, ils nous faisaient regarder les matchs. Donc on a suivi l'épopée de l'Algérie 2009 puis 2010, etc.
Ouais.
Ça nous a fait vibrer.
La meilleure époque.
Et quand tu suis l'Algérie à cette époque, après t'es
vacciné.
Il y a plus de retour en arrière.
Piqué,
tu vois, je pensais même plus à supporter le Congo, tu vois. De toute façon, ils avaient même pas d'équipe Congo Brazzaville. Mais bon.
Mais l'époque 2009 de l'Algérie, la qualification. Yahya.
Ouais.
Yahya qui marque le match d'appui, là, le match face à l'Égypte, qui deux semaines avant nous avait caillassé.
C'est une grande histoire, c'est une grande histoire du football africain.
La fête à Barbès cette année-là, c'était incroyable. Il y avait des Algériens, tu sais, là, le truc du métro. Là.
Bien sûr.
Il y avait des Algériens qui avaient escaladé, qui étaient pieds. Ouais, qui est debout sur le truc, c'était une dingue.
Mais les Algériens, de toute façon, quand il s'agit foot,
c'était trop.
Ouais, c'est
on va rien dire.
Voilà. on parle de moments d'histoire. Je crois que Lina, t'avais noté un petit truc sur l'histoire et le foot. Je te laisse.
Bah, en vrai, il y avait deux moments, moi, que je trouvais assez intéressants. C'était la façon dont l'équipe algérienne elle s'est construite. En premier, et je sais pas si nos auditeurs ou si même les gens dans la salle savent comment cette équipe s'est construite, mais en gros, comme vous savez, l'Algérie n'était pas un protectorat français, mais était un département français. Donc en gros, l'Algérie était vraiment un département de la même façon qu'aujourd'hui le 95 et le 91 sont des départements en France. Et donc forcément, les Algériens jouaient en équipe de France. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, dans les années 50, forcément, on est quelques années avant la décolonisation. Donc, l'Algérie commence un peu à... Enfin, t'as le FLN, qui est le parti indépendantiste, qui commence à faire plusieurs attaques et il commence à se passer plein de choses, plein de manifestations et tout, parce que les Algériens demandent l'indépendance. Et en 1958, t'as 9 Algériens, 9 footballeurs algériens qui jouaient dans l'équipe de France, qui décident tous ensemble de fuir pendant la nuit en Tunisie, et ils passent par la Suisse et ils décident en fait en Tunisie de créer la première équipe algérienne.
Incroyable.
Ouais, et en fait c'est trop drôle parce que c'est un pan de l'histoire dont les gens sont pas forcément au courant. Mais en fait, et le truc c'est que quand ils font ce voyage-là, en fait, quand ils décident de partir en Tunisie pour monter cette équipe-là, faut savoir qu'on parle de joueurs algériens qui jouent en équipe de France, qui étaient prêts à disputer la Coupe du Monde, ça veut dire qu'ils renoncent à tout en fait.
C'est comme si c'était Zidane ou Mbappé.
Ouais, c'est ça en fait. Donc ils renoncent complètement à tout pour aller créer cette première équipe nationale algérienne, qui représente du coup, comme l'Algérie n'est pas un pays à ce moment-là, elle représente le FLN. Et donc on est à 2 mois de la Coupe du Monde en Suède. Et ils décident tous de partir, et en fait ils vont commencer à entreprendre une tournée mondiale de plus de 80 matchs en utilisant le football comme outil de propagande, justement pour mettre en avant l'Algérie et l'indépendance.
Il y avait même une ligue nationale qui était jouée algérien.
Ouais.
C'est fort quand même.
Ça je savais pas. Mais du coup je sais que la France elle rompt leur contrat et qu'ils ont une sorte de... Enfin ils sont sous menace et trucs de la FIFA, enfin truc de fou. Et en fait, 4 ans plus tard, 1962, t'as l'indépendance de l'Algérie, et quant à la signature des accords d'Évian, etc., en fait, ces joueurs-là deviennent du coup la première équipe nationale algérienne. Et en fait, je trouve que c'est une histoire assez intéressante sur comment le football, il est utilisé comme un moyen de sensibilisation, tu vois, à la lutte pour l'indépendance. Et l'importance que ça a pu avoir, que ce soit dans l'histoire de la France et dans l'histoire de l'Algérie. Mais t'as d'autres histoires aussi, tu vois, comme par exemple, j'ai plus les tenants et les aboutissants de l'histoire, mais je me souviens, tu vois, de Didier Drogba, ouais, qui avait appelé à la fin de la guerre civile en Côte d'Ivoire.
Ouais.
C'était un match, je veux pas dire de bêtises.
La période où c'était chaud là-bas, donc je sais plus si c'est 2005 ou 2005, non, t'as raison. Vidéo, appel à la fin d'un
match. Et où il y a tous les joueurs qui se mettent à genoux. Tous les joueurs se mettent à genoux.
Ça démontre la puissance des joueurs quand même. Et en fait, l'impact qu'ils ont auprès de tous, pas que des jeunes.
Même si, genre, vas-y, c'est pas Didier Drogba qui a mis fin à la guerre civile, tu vois, mais en fait, ça a permis à contribuer à un espoir national, tu vois. Il y a un truc grave fédérateur en fait. Et ce truc grave fédérateur, je trouve qu'il est d'autant plus important pour les descendants d'immigrés quand tu vois qu'aujourd'hui la CAN en France, c'est tout aussi important que la Coupe du Monde ou l'Euro.
Ah mais clairement, clairement.
Genre je sais pas.
Peut-être plus même.
Ouais.
Mais gros, t'as vu les étoiles dans les yeux que vous aviez quand on a parlé d'une reprise de volée d'un joueur.
Il y a rien.
Que beaucoup de gens ne connaissent pas.
Tu m'as mis le sourire là.
Mais surtout qu'en vrai, en 2009, quand l'Algérie il se qualifie du coup pour la Coupe du Monde, ça faisait ça faisait des années que l'Algérie...
Ouais. 86, 82.
Ouais, même en vrai, ils n'avaient plus d'équipe, tu vois. Même les gens, ils se retrouvaient même plus avec cette équipe.
On savait même pas qu'on
voulait plus supporter. Donc, franchement, si aujourd'hui l'Algérie est à ce niveau-là, c'est aussi grâce à la génération de 2009. Parce qu'à l'époque, tous les joueurs algériens qui avaient un bon niveau, bah, ils allaient, ils imaginaient même pas jouer en équipe d'Algérie. Ils allaient en France, bien sûr.
Très honnêtement, est-ce que tu as beaucoup entendu l'hymne national donc de l'Algérie dans le cadre de notre discussion, mais j'étends même la discussion à notre public. Est-ce que vous avez beaucoup entendu l'hymne national de votre pays d'origine en dehors d'un match de foot? Nous, en tant que Français, on va l'entendre à la télé lors d'une prise de parole du président, lors de n'importe quel événement un peu historique, la Marseillaise va ressortir. Alors que quand on doit se connecter avec l'hymne de notre pays d'origine, et le foot, c'est central. C'est central, c'est la grosse porte de connexion avec une grande partie des symboles, de l'imagerie et de la culture au final de nos pays d'origine.
Bah, surtout que nous, en vrai, on est immigrés. Parce que, après, je sais qu'en Algérie, c'est différent. Parce que tous les enfants, ils se retrouvent, ils ont ce sentiment national. Parce que dès l'enfance, quand ils sont en école primaire, chaque matin avant, avant l'appel, ils chantent l'hymne national. Ouais. Alors que nous, ici, ni chanter l'hymne national française, ni algérienne. Et au final, le foot, ça nous aide à nous retrouver avec notre origine.
Ouais, bien sûr.
Mais tu vois, même dans le fait que, par exemple, le concept qui a été repris par les quartiers, ça n'a pas été la Coupe du Monde ni l'Euro, ça a été la CAN, tu vois. Ouais. Ça, c'est...
Ça n'a pas fait la Coupe du Monde des quartiers. Ça.
Bah après, c'est aussi parce que dans nos quartiers, ça est difficile de trouver des Vénézuéliens, des Colombiens.
Après, il y a tout maintenant.
Et pourtant, il y a
une équipe. Il faut faire une équipe.
Ils ont fait la Copa Latina.
Ah ouais?
En octobre.
Ah, oui, ça n'a pas le même buzz.
C'est
pas le même buzz. Forcé à eux.
On est pas ensemble.
Après, je te mens pas. Moi, je viens d'une petite ville à côté de Mantes-la-Jolie. La CAN de Mantes, t'as une équipe du Portugal.
Ouais,
ils sont très forts.
T'as deux Portugais dans l'équipe.
Ah bon?
Ouais, j'ai un poteau dédicace à toi, Jérôme.
Pourtant, dans cette chute, il y a un Portugais.
Il y en a beaucoup, mais visiblement.
Ils jouent pas au foot.
Si, mais apparemment, il y a plus fort qu'eux. Et donc, ça leur a dit. Rangez-vous,
c'est plus compliqué.
Enfin, quand tu vas dans les CAN, mais moi, genre voir les CAN de quartier, mais j'ai l'impression que je vois la vraie compétition. Genre, tu sais, tu vois, enfin, dans certaines CAN, mais vraiment, t'as du budget qui est mis, du truc. Moi, je me souviens la CAN de Montfermeil. Genre, vraiment, t'arrivais sur le terrain, il y avait des fumigènes, des drones, des trucs, ça rentrait, enfin, fanfaronne. Là, maintenant, tu vois des bails diffusés sur Amazon pour certaines CAN. Fin.
Mais surtout que le fait que ce soit amateur en vrai. Ça fait que il y a des joueurs qui ont un très bon niveau, mais ils vont représenter des équipes. Par exemple, tu vas prendre, je sais pas, la Guinée ou la Gambie ou quoi. En vrai, leur équipe nationale professionnelle, elle a pas un niveau de fou.
C'est pas la favori de la compétition.
C'est ça. Voilà. Alors que tu vas prendre la CAN des quartiers.
T'as une équipe de Guinée qui peut fouetter tout le monde.
Ouais. Par exemple, moi, mon père, il habite à Blois, et à Blois, il y a une forte communauté guinéenne. Okay. Et là-bas, il y a trop de joueurs.
Ouais.
Tu vois. Alors que tu vas voir la vraie équipe nationale.
C'est pas la même envergure. Tu parlais des moyens qui ont été mis. Je sais que dans la CAN de Mantes, l'équipe gagnante, l'Algérie, a pu envoyer certains de leurs joueurs pendant la CAN, du coup. Et le pari, c'était l'équipe que tu supportes, tu restes sur place, tout frais payé, tant qu'elle n'est pas éliminée. Et j'ai trouvé que c'était un cadeau de dingue. C'est force de sponsor, etc. Mais c'est aussi symbole des ambitions qui ont été mises pour faire des bêtes de projet et animer nos quartiers, animer les endroits où il y a des membres de la diaspora, un peu comme ce que vous avez fait finalement avec 18 Hills. J'ai vu une question super intéressante qu'on nous a envoyée en DM, sauf si tu... Non,
je voulais juste... Mais vous n'avez pas joué la CAN 18?
J'ai joué l'année dernière pour l'Algérie. Et cette année, j'ai joué la CAN du 14 pour la France.
Il y a une CAN dans le 14,
tu me poses la question, c'est vrai que jouer la CAN, surtout à Barbès dans 18, c'est incroyable.
C'est fort.
T'as l'impression d'être footballeur professionnel, vraiment. Ouais. En plus, c'est dans une arène, il y a tout le monde, ça crie dans tous les sens. Hey, mais tu ressens des émotions, t'es stressé de ouf.
Tu me fais penser à ça parce qu'on sous-estime le fait que c'est de jouer devant un public.
Mais grave.
C'est-à-dire que...
Plus de 500 personnes.
C'est ça. J'ai commencé un sport co depuis quelques années maintenant. J'ai de la chance de jouer dans un club où on a un public.
Ouais.
Mais quand tu joues dans certaines équipes, ou quand on joue à Tremblay, je joue dans un city stade. Je joue dans une ambiance city stade. Et il y a beaucoup de gens. qui ne sont pas habitués à ça. C'est unique.
Mais c'est le kiff total, ça nous anime. Je veux dire, moi, quand je sais que je vais participer à la CAN de Barbès, un mois avant, je kiffe. Je vais m'entraîner sérieusement. Je vais... parce que tu ressens des émotions fortes.
Ouais.
Et quand tu marques, ou tu fais tout pour ne pas prendre un geste, parce que tu sais que tu
m'y parce que sinon, c'est dur.
Mais c'est, franchement, c'est à vivre, hein. C'est incroyable.
Quand
c'est
tu prends un geste et il y a des cris, tu ne savais même pas qu'un être humain il pouvait les pousser. C'est fort. J'ai oublié ce que...
Ça donne à tout le monde envie de participer et même de venir regarder, ça rassemble tout le monde. Il y a tout le 18e qui vient, c'est vraiment festif.
La question qu'on nous a transmise en DM, c'est du coup peut-être les ambitions de 18 Hills.
Comment vous
le
voyez
évoluer dans le temps, vos objectifs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux dans notre
rapport. Mais 18 Hills, c'est toujours un rapport, tu vois, on a donné un nom à consonance anglophone parce que nous, on a toujours vu...
Loin,
enfin, mais surtout faire des choses à l'international.
Ouais.
Et bah, là, cette année, on est parti à Zanzibar, en Tanzanie,
ouais.
Et on a monté un projet où bah, justement, on a créé cette atmosphère qu'on retrouve à la CAN de Barbès, mais à Zanzibar. On a créé un grand tournoi, il y avait 500 personnes, c'était une dinguerie. On a donné, enfin, on a distribué, on a fait des dons de maillots, d'équipements, c'était un rêve, tu vois.
Avant, on était parti à Barcelone, en vrai.
Ouais, on fait des trucs comme ça à Barcelone, on va participer à des tournois. Mais créer un tournoi en Afrique, c'est un autre niveau. En plus de ça, tu vois, on s'est associé avec des Suisses. Ah, il y a un... Ah non, c'est un...
c'est un...
J'ai cru qu'il y avait un but.
C'est un replay, t'inquiète.
Mais il est pas concentré.
Mais depuis tout à l'heure, je le vois en plus.
Ouais,
il est concentré, de dire, je comprends.
En plus de ça, tu vois, on s'est associé avec une association suisse et on est parti là-bas en Afrique pour construire une école primaire. Mm-hmm. Tu vois, on l'avait annoncé en plus à Plume Banlieue. Et donc, on l'a bien fait. Et l'argent des donateurs, il est bien arrivé, tu vois.
On n'a pas détourné ça.
Non, il y a une transparence.
Et c'est le type de projet qu'on aime faire et qu'on aimerait continuer à faire même dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs.
Mmh. Parce qu'en vrai, non, on a toujours plein d'idées. Mais après, il faut les moyens aussi.
Ouais.
Tu vois, c'est ça qui va toujours poser problème. Parce que nous, à chaque fois, on va se dire, oh, on aimerait faire ci, on aimerait faire ça. Mmh. Après, il faut voir si c'est réalisable. Parce que nous, si on a des opportunités, en vrai...
Après, franchement, on a bien réussi notre projet en Tanzanie. C'est-à-dire que maintenant, on a eu d'autres... On a d'autres propositions à l'avenir, d'autres pays, d'autres associations. Et pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais on y réfléchit pour faire ça. C'est vraiment ce qu'on aime faire, en tout cas.
Donc, si vous voulez donner des talks quand on fait un projet, n'hésitez pas.
Moi, il y a une question. Alors, pour le coup, je suis un peu moins concernée parce que je suis une fille. Mais je pense que c'est une question qui est majoritairement masculine, notamment quand tu grandis en tant que noir ou arabe en France. C'est le fait que le foot, tu sais, c'est un peu quand t'es petit, c'est genre ton rêve, ça va être d'être footballeur, tu vois. Et tu sais, j'avais une discussion avec un ami récemment qui, lui, a été dans ce truc où il était à fond dans le foot, à fond dans le foot, à fond dans le foot. Mmh. Et plus il grandissait, plus il commençait à être dans les délires de centre de formation, début adolescence, etc. Jusqu'au moment où t'as le fameux... ligament croisé.
Ce sera pas possible.
Voilà, ouais. Mais ce sera pas possible. Et où en fait, tu te retrouves avec des générations de gars qui, toute leur vie, étaient persuadés qu'ils allaient percer dans le foot et qui en fait se retrouvent du jour au lendemain.
À la rue, entre guillemets.
Ouais, à la rue
dans
de leur
rêve. Dans le sens où ils savent plus quoi faire.
Ouais.
Ouais.
Ah. T'as vu des trois mecs autour de la table, je vais te faire une réponse rapide qui me concerne que moi.
Ouais.
Je suis pas fort au foot. Donc ça veut dire que cette réalisation là de « Waouh, le foot ça va pas être pour toi », elle est arrivée tôt dans ma vie.
Oui,
et...
mais t'as des gens dans ton entourage qui ont vu ce truc.
Ouais, non mais regarde, déjà rien que ça c'est une réflexion. C'est-à-dire que, en fait regarde, c'est ce que je leur ai expliqué, j'ai un niveau moyen, minimal d'un mec de banlieue, d'un rebeu en banlieue, etc. C'est-à-dire que tu me mets devant des gens qui ont moins joué,
t'es le gars
va.
Qui dépanne en fait.
Exactement, je serai tranquille. Mais... même sans parler centre de formation, ambition, etc., quand en tant que rebeu en banlieue parisienne, etc., t'es limité dans le foot, t'es pas branché foot, déjà là tu dis, waouh, bon, bah, va falloir que je trouve autre chose là. Hein.
Mais c'est vrai parce que, tu vois, nous, en ayant grandi dans des quartiers, nous, pour s'en sortir, pour réussir, en fait, pour nous, dans notre tête, on grandit en pensant qu'il y a soit le foot, soit le rap. Ouais. On grandit pas avec cette fibre de. Je peux faire des études, je peux avoir un bon poste, tu vois. Moi, par exemple, bon, moi, tu vois, alhamdoulilah, j'ai eu un bac 5 récemment, tu vois. Mais j'étais en terminale, j'étais en L1, je savais pas du tout ce que c'est qu'un M2, tu vois.
Ouais, c'était moins évident pour que
pour nous, on grandit avec cette mentalité de vas-y, maximum, je vais faire un BTS, et après, je vais charbonner, je vais travailler dur, et peut-être, je vais ouvrir un chicken. Ou... Ouais. C'est cette mentalité qu'on a. On n'a pas ce truc de vas-y, il faut que je peux me donner à l'école, j'ai les moyens, je suis capable, et je peux avoir un bon poste, je peux avoir un bon travail. Tu
c'est vois. Au final les pistes qui manquent à ces mecs, une fois qu'ils sont privés du foot, ils ne savent plus, ils sont c'est désespérés ça. Parce que. Ils savent pas qu'il y a d'autres choses qui les attendent.
Quoi. Et justement, quand tu obtiens un diplôme, tu te rends compte qu'en fait, c'est possible et c'est atteignable pour tout le monde.
Ouais.
Mais nous, on grandit en se disant, voilà, pour moi, il n'y aura que le foot.
Et vous parliez, enfin, même toi, Samy, tu avais parlé des études, vous êtes diplômé en quoi, du coup, tous les deux?
Moi, en Master 2 événementiel dans le sport.
Ok.
Et toi? Moi, en management des organisations d'État.
Ok.
Oh, vous n'êtes pas très éloigné du domaine.
Ouais, c'est dans le.
Lui, un peu moins, mais oui, en gros, ça reste de la gestion humaine et voilà.
Lui, il n'aime pas travailler, il est dans la fonction publique, je crois, c'est un flanc, comme il a dit.
En vrai, je bosse, mais. Non, en fait.
Un flanc, ça m'intéresse.
On va commencer à parler
de toi. T'as combien de jours de congé?
Ça, c'est un autre débat.
Combien de jours de congé?
Les gars, vous êtes des bons joueurs. J'ai vu des petites stories, j'ai vu ça, ça me fait des gestes, etc.
Ça va.
Du coup, vous, ça a été à quel âge que, ok, je suis chaud, ok, j'éteins les mecs de chez WAM, mais pro, compliqué. Ça s'est fait comment et vers quel âge, peut-être dans quel club?
Le plus tard possible. Hein. En vrai, moi, jusqu'à qu'on jouait au Qatar, j'y croyais.
Ok.
J'y croyais, bah oui. Parce que footballeur professionnel, ça veut pas que dire je joue
ouais,
en Ligue 1.
Madrid, ouais, ouais.
Il y a des mecs qui jouent en Division 4, même en France. Et encore plus si t'es déter, tu vois, nous, on a cette fibre-là de... On est capable d'aller n'importe où pour aller jouer au foot.
Oui.
Moi, je serais capable d'aller en Thaïlande, en D2 thaïlandaise. Si je vis du foot, je suis content, en fait.
Ouais.
Tu vois, t'as un bon salaire, t'es content. Donc, en vrai...
Parce qu'en plus, il y a des systèmes maintenant. Ils trouvent un petit taf à côté.
Ouais,
ils trouvent
y a
le logement qui va avec.
Ça,
ouais,
vois.
Bien sûr.
T'auras pas la vie de rêve de Mbappé, mais
donc,
tu peux.
Ce que t'as pas osé dire, c'est qu'en vrai, s'il y a un agent de foot là qui cherche un.
Là,
c'est
moi, mes chevilles, elles sont fatiguées.
Ok,
j'ai
d'accord.
Ligament là, vraiment ligament.
Et toi, Samy?
Vraiment ligament.
Moi, en vrai, j'ai joué à un bon niveau. J'étais dans la région centre, j'ai joué à un bon niveau, mais après, c'est quoi? C'est au moment du bac, hein.
Ouais.
Parce que quand t'arrives à un bon niveau, tu te dis, bah, en vrai, t'as pas été recruté ni rien.
C'est un choix.
Ouais.
Tu te dis, bon, bah. Les études par défaut en vrai.
Okay.
Donc je me suis un peu concentré sur mes études. En même temps, je joue au foot. Mais tu joues pas au niveau. Tu te dis, bon, je fais le foot parce que je kiffe le foot.
Et tu continues.
Mais après, au bout d'un moment, tu continues. Et quand tu es dégoûté par un coach, tu te dis, ça y est, le foot.
C'est personnel, ça.
C'est ouais, personnel. Le foot, ça y est, on va
ça
aller
est,
dans la boxe taille, comme tout le monde.
Oui, il y avait un dernier sujet, enfin un sujet que je voulais aborder, c'était sur le fait que on a parlé du pouvoir fédérateur du foot, et pour le coup, ça, on s'en rend compte à chaque fois. Chaque Coupe du Monde, on est en mode yeah, on est tous français et tout, trop bien. Après, deux secondes après, on oublie tout. Et en fait, t'as ce même truc pendant la CAN où en fait, en tant que maghrébin, tu sais, t'as ce truc où t'as beaucoup de maghrébins qui vont être en mode. Ah, moi je suis pas africain, tu vois. Il y a cette question là qui se pose de temps en temps.
Ce n'est que mon avis, mais ils inventent, ils sont à côté de la plaque. Reprends
oui,
ton intervention.
Et je trouve que en plus, c'est vraiment un problème de maghrébin de France.
Après, on n'est pas ensemble, moi je suis aussi noir. Donc,
ouais, voilà, non, t'inquiète, c'est pour ça que je s'engage que moi.
Mais tu vois, pareil, t'as ce truc où, genre, pendant la CAN, c'est le moment où la question de l'unité de l'Afrique, on va dire, elle se pose moins. Parce que tout le monde est en mode, on est tous ensemble, la question se pose.
On est
pas,
tous ensemble, mais si on s'affronte, on n'est pas ensemble.
Ouais.
Non,
moi, par exemple, s'il y a un Algérie-Maroc, crois-moi, moi, je suis pas marocain. C'est un fou derrière l'Algérie.
Non,
ça,
mais
c'est
dans
une petite
pique
pour ma belle-sœur qui est marocaine.
Dans le sens, genre, en gros, tu sais, on va entendre beaucoup de trucs en mode, Rebeu contre Renoir, non.
Après,
et en fait, t'as l'impression que le pouvoir, enfin, le foot, il a quand même un truc assez fédérateur, que ce soit dans la CAN, mais que ce soit même ailleurs. Où tu vois, il y a cette question de l'africanité qui se pose plus à partir du moment où tous les joueurs, enfin, où toutes les équipes jouent cette compétition tous ensemble.
Bah, tu vois, Lina, on l'a pas. Bon, enfin, je suis archi pas d'accord parce que j'ai l'impression même, au contraire, que c'est là où on se rappelle qu'on est dans des équipes différentes. Parce que, comme il a dit, s'il y a un Algérie-Maroc pendant la CAN, d'accord, mais au jour le jour en France. On est des rebeux. T'as le mot qui va englober un peu tout ça. Ou si tu fais rebeu Renoir, bah déjà le mot, les deux mots vont souvent ensemble. Et en plus, t'es souvent juste les autres. Alors que quand il y a la CAN, t'as des lignes un peu plus précises qui vont se dessiner entre les uns et les autres. Après, la question de l'africanité, je pense qu'il y a des gens qui savent pas réfléchir, c'est tout. Je suis un peu le mec dur de
après,
l'équipe.
Après, c'est des débats de réseaux sociaux, en vrai.
De dingue
ça, c'est sur les réseaux sociaux, ils vont dire, ouais, par exemple, moi, je suis algérien, je suis marocain, mais en vrai, nous, on est plus proche des Européens dans notre culture que de l'Afrique, alors qu'en vrai,
c'est pas vrai.
Tous africains. Tu vois, pour quand t'es en Europe, quand t'es ici en France, on va voir un rebeu, on va te mélanger, on va dire t'es un rebeu, t'es un renois, t'es pareil, t'es un immigrant.
Non, clairement.
Donc moi je pense que c'est des débats inutiles, en vrai. Ça fait plus freiner le développement de la bonne ambiance et le développement de l'Afrique.
Hein. Ouais, clairement.
Non, mais on est fiers de notre pays, tu vois, on le clame haut et fort, tu vois. Moi je dis je suis algérien, mais on est fiers d'être ensemble aussi, de se rassembler. C'est un moment, on est tous ensemble, tu vois. Là ici, on a tous, il y a des nationalités différentes. Et pourtant, on est tous rassemblés, alors que ça se trouve, il y a un match sur l'Algérie, ça concerne personne. Et ouais. Moi, demain, s'il y a un match sur le Mali, je vais le regarder aussi.
Ouais.
Ça montre aussi. Non, moi, je suis d'accord avec toi, Lina, ça rassemble quand même. Après, c'est sûr, on va se taquiner. Parce qu'on a envie de montrer que. On est fiers, justement, de montrer nos pays, tu vois.
Ouais.
Mais ça va durer 2-3 semaines. Moi, si demain, on en embrouille, je sais pas, avec des Maliens, parce qu'ils nous ont éliminés. Tu vois, ça me de ouf contre des Maliens, tu vois, parce que je suis un rageux. Mais je veux dire, 3 semaines après, 1 mois après, la vie reprend son cours. Tu vois,
contre les Camerounais, ça fait 2 ans, on est encore.
Camerounais, c'est différent. Camerounais, ils ont privé de la Coupe du Monde.
Voilà.
Faut pas mélanger.
Tu sais, c'était comme, je sais pas si vous avez vu le TikTok du mec qui commence à lister des trucs.
Les excuses.
Ah oui, excellent.
Moi qui prépare mes excuses pour quand l'Algérie va sortir, ou il y en avait un autre, c'était quand le Mali va sortir de la CAN. Dernière question et après je vous passerai aux questions si jamais vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. supposons que vous êtes footballeur professionnel, vous avez un avenir radieux.
Algérie ou France?
Ouais.
Ah là là.
Vous jouez
c'est
pour
quelle question ça?
Non, parce qu'il a beaucoup parlé.
Algérie, France, Congo.
Moi?
Ouais.
Entre les trois.
Entre les trois, du
coup. Entre le drapeau.
Non, en vrai, Algérie. Mais parce qu'après, je suis plus proche de la culture algérienne que du Congo. Après, c'est pas par rapport au fait que je préfère l'Algérie.
Non, bien sûr.
C'est en fait, je parle déjà. Même footballistiquement parlant et en termes de
même,
comment
en vrai, au quotidien,
fallait faire
je suis plus proche de la culture algérienne, en vrai, que du Congo. Par rapport aussi à la religion, mais ça c'est d'autres débats. Mais ouais, je choisirais l'Algérie. Hein.
Moi c'est vraiment l'Algérie, ça m'a marqué. Je sais pas, je t'ai dit 2010. Non mais je te dis honnêtement, moi, tu vois, je suis un fan de foot. Ça veut dire par exemple, mon équipe préférée c'est le PSG, tu vois.
Oui.
Mais je ressens pas la même chose quand je regarde l'Algérie et le PSG.
Attends, je suis désolé. C'est qui votre joueur préféré du coup de cette époque 2009
Algérie Ah ouais, toi tu
parce qu'il y a qu'une bonne réponse.
On peut continuer ce débat après, tranquille. Ouais.
Vas-y, mais il y a qu'une bonne réponse, messieurs.
Tu vas dire Kizyani.
Merci, c'est bon.
Il est marseillais.
Voilà, tranquille, continue.
Non mais ce truc de... Tu vois, par exemple, quand je suis le PSG, dès le début j'étais fan et tout, mais avec le temps tu comprends que vas-y, en vrai c'est du foot, c'est du business. Les joueurs ils sont là 2-3 ans, ils te représentent pas en tant que parisien, tu vois, ils représentent pas les quartiers, ils représentent que vas-y l'argent, les Champs-Élysées, les grands restaurants et tout, mais pas vraiment nous. Mm-hmm. Et quand c'est l'Algérie, le joueur il sait que tous les Algériens du monde rêveraient d'être à sa place, tu vois. Il représente sa famille, il représente sa ville et je sais pas,
mais la ferveur en plus, la ferveur en Algérie du peuple. En fait, que ce soit pour l'équipe nationale ou même les clubs locaux, là-bas, la ferveur, c'est un truc de fou. En fait, ils vivent que pour le foot. C'est simple. Par exemple, tu vas aller à Alger, il y a 3 grands clubs. Il y a le Mouloudia, il y a le CRB et il y a l'USMA.
Ouais.
Là-bas, c'est des... Ils sont presque tous au chômage. Mais leur semaine... Non, en vrai, même ceux qui travaillent et tout, en vrai, leur semaine, ça va être que sur la préparation du match du week-end. Parce qu'ils vivent pour ça. Et même, tu vas voir en 2019, quand ils ont gagné la CAN, c'était pendant le Hirak, etc.
Ouais.
Et ça, en vrai, ça a égayé leur quotidien.
Leur combat, tout
tu
ça.
Vois. Le vendredi, ils sortaient dans les rues, mais après, la CAN, ça a enjolivé leur année, tu vois.
Ouais, je comprends.
Parce que même pendant les moments noirs, tu vois que le football, ça redonne de la joie au peuple. Et eux, ils vivent pour ça.
Le drapeau algérien, le mot algérien, tu vois, ça a une histoire. Comme tu l'expliquais avec le FLN et tout, quand tu connais l'histoire, c'est encore plus fort. et tu comprends la signification de porter le maillot vert, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment à fond supporter algérien. Et voilà.
Et même en vrai, pour le peuple, le foot, c'est un moyen politique de fou. Hein. Ouais. Dans les stades, c'est là où ils s'expriment. Tu vois, tout leur quotidien, ils vont, par exemple, leurs conditions de vie, c'est dans le stade où ils vont exprimer toutes leurs revendications. Donc, franchement, le foot pour eux, c'est vraiment toute leur vie.
Okay. Donc, l'Algérie.
Ouais. Voilà.
Non, mais regarde pas, Lina, j'ai dit que j'étais pas bon au foot.
Tu non, mais si tu devais
choisir. Non, dans les autres sports, ouais. Enfin, tu vois, demain au rugby ou même au judo, à l'époque, je me posais la question, tu vois, sur les sélections. Ouais. L'Algérie, ça ferait kiffer, ça. C'est vrai que, tu vois, c'est-à-dire que t'es en accord du premier au dernier moment. Et en fait, t'as super bien résumé le fait que t'es conscient qu'il y a d'autres mecs qui te ressemblent vraiment beaucoup, qui donneraient tout pour être à ta place. Et ça c'est très, 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 très fort comme
les hommes.
Exactement.
Les hommes.
Voilà.
Don't go Hawaii, tout l'été par la night. J'ai fait solo mon bail, j'ai tout fait pour me tailler. Don't go Hawaii, tout l'été par la night. J'ai fait solo mon bail, j'ai tout fait pour me tailler. Pour tes beaux yeux, je vendrai tout le Hanout. J'ai tangué mes problèmes dans du Hamout. J'ai acheté au Jekar tout le mois d'août, donc je ferai tout pour me tailler. Mais là, son respect nous un minimum. J'vois la journée de la taille d'un minimum. Le vide que tu m'as laissé est immense, alors que j'ai tout fait pour me tailler. J'prépare solo mon bail sale. J'suis pas de ce monde comme Einstein. J'me dois d'exister comme Palestine. Devant l'âge, je connais pas l'Espagne. J'connais personne, faut que j'précise. N'écoute pas ces conseils des bêtises. J'ai mes masques, eux se déguisent. Ils essaient de me coller, mais j'sais pas qui c'est. Ils ont glissé, ce qu'ils ont bu vont bientôt pisser. Mais qui a Disney? J'ai guisé, j'ai visé. Pendant qu'ils ici, ils promettent des pisses. Pull up dans un bail space. Y'a tous les flows, mais j'viens pas des stays. J'ai vision du Pyrex, tout ce qui va avec. Si j'ai le token, j'aurais ta 20 millions. Quitter ce milieu pour meilleure mission. Checker les comptes avant de payer l'addition. Marre de prendre tout le temps les mauvaises décisions. J'aime trop la vérité pour suivre l'opinion. Sur la nose que mon équipe a pignon. Pilon et jaune comme les Simpsons au Minion. Tango, Hawaii, tout l'été par la night. J'ai fait solo mon bail, j'ai tout fait pour me tailler. Tango, Hawaii, tout l'été par la night. J'ai fait solo mon bail, j'ai tout fait pour me tailler. Pour tes beaux yeux, je vendrai tout le Hanout. J'ai tangué mes problèmes dans du Hamout. J'ai acheté au Jekar tout le mois d'août, donc je ferai tout pour me tailler. Mais là, son respect nous un minimum. J'vois la journée de la taille d'un minimum. Le vide que tu m'as laissé est immense, alors que j'ai tout fait pour me tailler. J'aime pas ce qui est facile, c'est une sorte de piège. Toujours à la recherche de ce contre-pied. Trouve-moi près de la rue, je recompte le miel. On a sorti canine pour faire rentrer pièce. Mon absence était un plan pour te rendre fier. De base et le bout, mais la taille de la quiche t'as la rentrée niaise. J'ai mélangé les rames et le selecto. Le videur de la boîte me dit que c'est sélectif. J'entends le remix d'Inata en électro. Je rentre chez elle, dépenser toute mon énergie. Solitude me fait développer mes skills. C'est mes pensées en boîte comme un PNJ. Navigation privée, j'suis comme que cra. C'est Dieu qui donne, rien me sert de faire le crap. J'envoie des messages avec que dalle. Mettons une servitif, il met que dalle. J'me porte mieux quand t'es loin de mes affaires. J'suis dans le soulevage de mer au quotidien. Ils raflèrent des millions quand ils passèrent. J'culpabiliserai pas si j'en pique un. Tango, Hawaii, tout l'été à la night. J'ai fait solo mon bail, j'ai tout fait pour me tailler. Tango, Hawaii, tout l'été à la night. J'ai fait solo mon bail, j'ai tout fait pour me tailler. Pour tes beaux yeux, je vendrai tout le Hanout. J'ai tangué mes problèmes dans du Hamout. J'ai acheté au Jekar tout le mois d'août, donc je ferai tout pour me tailler. Mais là, son respect pour un minimum. J'vois la journée de la taille d'un minimum. Le vide que tu m'as laissé est immense, alors si j'ai tout fait pour me tailler.
On passe au chouf.
Chouf. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les choufs, on termine toujours les épisodes par des recommandations. Donc, c'est bon, tout le monde a sa recommandation?
Ouais, c'est bon.
Ok. Donc, moi, ma recommandation... Attendez, il faut que je sorte mon téléphone parce que, bien sûr, j'ai oublié. C'est une série documentaire qui s'appelle Les Rebelles du football, réalisée par Eric Cantona. Et j'avais regardé, je crois, deux ou trois épisodes, mais en gros, ça revient sur
je crois que c'est une trentaine de minutes, un truc comme ça. Et en fait, c'est Eric Cantona qui narre 5 profils de footballeurs.
5 voyous. Je te rassure, c'est ça.
Ouais. Et en fait, c'est 5 histoires de fous. Et donc, il y a notamment un épisode sur l'histoire du FLN et un épisode sur Drogba et la Côte d'Ivoire. Donc en vrai c'est pas très long et je vous conseille grave de regarder parce qu'on apprend plein de choses et justement ça montre bien, enfin t'as un truc très intéressant socialement et culturellement sur l'impact du foot dans l'histoire, donc voilà. Et toi ?
Avant de balancer ma recommandation, je vois la compo de l'Algérie là, à l'écran. Moi, là, je suis trop content. Moi, là, j'aime trop notre équipe. Bref.
Incroyable.
Donc, pour passer à ma recommandation, c'est. Vous m'y avez fait penser en parlant de 2009. La chanson Gladiateur de Cynic qu'il avait sortie avant que l'Algérie aille en Coupe du Monde, justement en 2010. Je l'avais saigné à l'époque. C'était trop marrant. C'était une chanson un peu familiale. Ça m'avait fait kiffer. Donc, n'hésitez pas à plonger il y a 15 ans.
Ancien.
Ouais, t'as vu ça? N'hésitez pas à vous rappeler de la musique d'il y a 15 ans et écouter Gladiateur de Cynic. Messieurs?
Moi, c'est quelqu'un que je devais dédicacer avant, mais j'ai oublié, donc je le fais maintenant, c'est même déchiré. C'est Youth Film.
Okay.
C'est un jeune étudiant, enfin, il n'est plus étudiant, c'est un jeune, qui, avec sa caméra qui filme en 8K, pardon, qui parcourt la Terre et qui va donner la parole à des citoyens dans le monde. Il est parti au Vietnam, en Colombie. Il est parti avec nous à Zanzibar. On va d'ailleurs sortir un film. Okay. Rendez-vous en mars, Inch'Allah. Et c'est comme ça que je l'ai contacté. Finalement, moi, je l'ai trouvé sur Instagram. Je kiffais ses réels. On dit réels ou reels?
Reels, ce que tu veux.
C'est ça la vraie question. Reels. Bon, il faisait des réels et j'avais kiffé la façon dont il interviewait les gens et tu comprenais la situation actuelle, enfin le quotidien que vivaient les gens. Et j'avais kiffé. Donc, allez vous abonner à Youth Film. C'est top.
À toi.
Moi, ma recommandation.
Ouais.
Moi, c'est mon ref là-bas, c'est Football Field.
Ok.
Donc, Guillaume, qui tient le compte Football Field. Donc, en gros, sa thématique, c'est voyager un peu partout. Au début, c'était en Ile-de-France. Après, c'est un peu partout dans la France et dans le monde. Prendre en photo des terrains. Et j'espère qu'en se faisant, avoir en ayant un plus grand impact, qui pourra créer son terrain, c'est son objectif.
Oh, c'est tout ce qu'on souhaite, ok.
Donc, donnez-lui de la force. Yes.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs.
Merci.
Merci beaucoup.
Et merci beaucoup à vous d'être venus. Et merci encore à Air Afrique pour l'accueil.
La Thaï est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Sidox, Théophile, Amel, Irfan et Wafa. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver dans la barre de description et sur notre site www.latiaipodcast.com. Cet épisode de La Thaï a été enregistré dans les locaux de Yard. On les remercie pour leur accueil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou Deezer en tapant La Thaï, LATAY sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et sur Twitter, @latiaipodcast. On se retrouve bientôt, Inch'Allah.